Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Je pense que tout le monde. Faites des signes si vous ne nous entendez pas. Encore plus fort? Non, ça doit être bon. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux à une heure aussi de grande affluence pour cette conférence intitulée La science-fiction est-elle à prédire l'avenir? Donc, nous sommes assez nombreux sur ce plateau. J'ai donc 5 intervenants. On va commencer par Christian Gattard, qui est tout au fond, qui va prendre le micro, je pense, qui est essayiste, consultant, sociologue. J'ai oublié des choses.
Ça va.
C'est déjà un beau palmarès. À côté, nous avons Ariel Kériou, qui est essayiste, qui travaille sur, en ce moment, un documentaire sur Philippe K. Dick. Les informations sont exactes.
Exactement. Philippe K. Dick, Souvenir du futur, justement.
À côté de nous, au centre, nous avons Pierre Bordage, auteur prolifique d'à peu près 53 romans. On ne va pas tous les citer, ça prendrait à peu près l'espace d'une conférence, ne serait-ce qu'une minute par roman. Je vous conseille vivement de s'intéresser à toute cette bibliographie qui est quand même assez énorme et des rééditions qui commencent à arriver. À côté de nous, nous avons Alain Bergeon, qui est un auteur, qui est aussi rédacteur de plusieurs rapports pour le gouvernement canadien.
Ce n'est pas à ce titre-là que je suis ici aujourd'hui.
Voilà. Et nous avons Anne Fakoury, auteur de littérature de l'imaginaire dans son ensemble. Tu prends le micro et tu me corriges si je me trompe.
Bonjour.
Et ma première question que j'avais à brûle-pourpoint, y a-t-il un lien très fort et historique entre la science-fiction et l'avenir? Ça pourrait prendre l'objet d'une heure de conférence, mais on va essayer d'être bref.
Le lien qu'on pourrait penser le plus direct, c'est que Hugo Gernsback, qui est celui qui a inventé le terme science-fiction en 1926, on pourrait être exact, il l'a inventé en 1929, mais en 26, il invente le terme science-fiction. Et Hugo Gernsback, lui, croit en l'avenir de la science et pense qu'il faut absolument que la fiction trace cette voie vers une sorte de merveilleux gouvernement technocratique qui fera notre bonheur à tous. Et on le constate aujourd'hui encore.
Si quelqu'un veut rajouter quelque chose,
je ne sais pas, aux origines, comme tu disais, probablement que l'idée de départ, c'était effectivement de tracer la voie du futur à l'aide d'un genre qui s'appelait la science-fiction. Et il s'avère que, à la pratique, c'est pas du tout ça. c'est simplement une façon détournée de parler du présent, c'est-à-dire de capter ce qui se passe dans le présent et de le ressortir sous forme de récit. Parce qu'il y a une chose qui est évidente, c'est qu'aucun futur n'est écrit, et sur le socle du présent peuvent s'élever une quantité innombrable de futurs. Et donc, quand un auteur de science-fiction prend un futur possible, il ne fait que s'essayer à une voie sans prétendre détenir la vérité sur le futur. Ça, c'est impossible, je pense.
Oui, je suis tout à fait d'accord. L'idée, essentiellement, pour faire de la prospective, on ne peut faire que de la prospective du présent, c'est-à-dire se servir des projections dont s'empare la science-fiction pour réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui.
D'ailleurs, est-ce que, Christian, vous pourriez définir ce que c'est que la prospective?
Non.
Non.
Non, la prospective, c'est un sujet dont s'emparent beaucoup de sociologues, beaucoup de penseurs, etc. Dans la réalité, la prospective, c'est la prospective officielle et académique. C'est la possibilité de tirer les cordes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, d'essayer de prolonger des tendances. On sait par expérience que ça se plante toujours. Il y a toujours une sorte de signe noir qui apparaît et qui fait le contraire de ce qu'on attendait. Alors il y a une prospective qui est beaucoup plus intéressante, c'est précisément celle des auteurs de science-fiction. C'est la réflexion sur le présent à partir d'une mise en présence des grands récits d'aujourd'hui. Ce que je trouve d'ailleurs particulièrement intéressant aux Utopiales, par exemple, c'est la rencontre entre les auteurs, les tables rondes, et les lecteurs. Et c'est ça qui crée l'avenir. C'est ces échanges, cette espèce d'échange fertile qu'il y a entre les gens et les textes. Quoi.
J'aimerais lancer une idée ici, c'est que la science-fiction, en tout cas celle qui s'intéresse au futur, ce qui n'est pas le cas de toutes les branches de la science-fiction, celle qui s'intéresse, donc la littérature d'anticipation en fait, se distingue de la prospective peut-être ou de, de l'ensemble de l'appareil de prospective à base de statistiques principalement, par l'introduction du facteur humain. C'est que les auteurs de science-fiction peuvent prendre l'avenir comme terrain de chasse, comme décor, mais ils introduisent des personnages. Ils introduisent des êtres humains qui sont confrontés avec des situations insolites, des situations de futur possible. Et c'est cette confrontation-là qui permet au lecteur de faire un transfert, de dire au fond, qu'est-ce que j'aurais fait à la place du personnage dans ces contextes, dans ces situations-là. Et l'objectif du panel qui est de dire, qui est de demander, est-ce que la science-fiction nous aide à préparer l'avenir? Bien, je pense que pour le lecteur qui s'initie à des futurs possibles à travers la littérature de science-fiction, bien, ce qu'il fait, c'est peut-être se préparer à des situations éventuelles.
Je crois que ça met en place le rôle de l'écrivain lui-même. Excuse-moi, Ariel. C'est le rôle de l'écrivain et la façon dont son inconscient prend en compte le monde avec une sorte de prophétie. Il y a un terme très intéressant d'inconscient prophétique qui serait le moteur de l'écrivain de science-fiction, qui me semble particulièrement juste, d'où l'humain, de la rencontre avec l'humain.
Mais en fait, la science-fiction existait avant le terme science-fiction. Bon, et de fait, c'est avant tout une littérature de l'imaginaire. Il y a une digue qui saute. C'est comme dans la fantaisie, dans le fantastique. Tout devient possible. La seule différence, c'est que la science-fiction prend appui, plus ou moins, sur des éléments d'aujourd'hui venant de la science et des technologies. Plus ou moins. Voilà. À partir de là, ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est un univers propre qui a sa propre autonomie, en fait, hein, l'écrivain de science-fiction. Mais il faut savoir que certains prospectivistes étaient aussi des écrivains de science-fiction. Arthur C. Clarke était à la fois prospectiviste et écrivain de science-fiction. Isaac Asimov aussi. Et il se trouve que beaucoup de ces écrivains de l'âge d'or de la science-fiction étaient invités régulièrement au MIT de Boston, étaient invités au Media Lab de Marvin Minsky. Alors peut-être que ces noms ne vous disent rien, mais ce sont des grands noms de la science-fiction américaine travaillant sur la robotique, sur l'intelligence artificielle. Et ils se challengeaient régulièrement en allant chercher des auteurs de science-fiction qui allaient mettre en l'air leurs hypothèses et qui devaient en quelque sorte être les trublions, être les mouches du coche. Donc de fait, les deux territoires de la science ou de la prospective et de la science-fiction étaient très différentes, mais pour les Américains et pour ceux-là, s'inspirer, se nourrir de ces écrivains de science-fiction leur permettait d'aller plus loin, leur permettait de trouver de nouvelles hypothèses, leur permettrait en quelque sorte de se challenger. Voilà. Hein ? Donc il y avait ce lien, même si effectivement je suis d'accord qu'en pratique, la science-fiction ne prédit pas le futur.
Justement, donc, question pratique pour nos auteurs. J'avais quelle place prend l'avenir quand vous écrivez un texte, par exemple ? Le concept de futur et d'avenir.
Alors moi, ça tombe bien parce que je ne suis pas auteur de science-fiction et je ne parle jamais de l'avenir, beaucoup du passé. Cela dit, j'ai quand même commis deux textes de science-fiction et je vous demande d'être très indulgente parce que la science-fiction, pour moi, c'est un univers surtout télévisuel et cinématographique. Et j'ai grandi dans les années 80, donc je vous laisse imaginer, et vous le savez, tout le kitsch qui est attaché à la science-fiction, et tout l'affect surtout qui est attaché. Cela dit, ce que je trouve assez intéressant en science-fiction, moi, c'est la question du langage, et la question du néologisme en particulier, et la façon dont on peut réfléchir sur le langage en se projetant dans l'avenir, l'image qu'on a effectivement d'une science-fiction prospective. Et assez apocalyptique, assez négative. On est dans cette anticipation d'horreur. Évidemment, on va tous mourir, il n'y aura plus d'eau, plus d'animaux, on va manger des insectes et de toute façon, on sera tous radioactifs. Voilà le principe. La question du langage est très intéressante parce que justement, elle nous projette dans un futur beaucoup plus positif qui nous montre toutes les possibilités de l'influence du langage sur une société, de toutes les interconnexions entre le langage et la société. J'étais professeure de français jusqu'au mois de juin et j'ai toujours entendu ce discours qui disait les enfants ne savent plus écrire, hein. Ils ne connaissent plus la grammaire. Et je me suis aperçue que mon métier, ma pédagogie était complètement obsolète et que la réponse était justement dans l'avenir sur le langage. C'est-à-dire que quand on demandait à des enfants de comprendre un texte selon le sens grammatical, on faisait une terrible erreur, puisqu'aujourd'hui, grâce à l'image et en particulier à Internet, qui est un outil évidemment formidable, on pouvait axer la compréhension sur l'image elle-même, le vocabulaire, le signifié, le signifiant, et que petit à petit, on allait arriver à un langage multiforme, à un langage qui allait vraiment s'appuyer sur d'autres supports et d'autres supports médiatiques. Donc il y a déjà dans la façon dont... Et là, je pense évidemment à mes quelques références littéraires, c'est-à-dire à Jack Vance, avec le langage de Pao, si je ne dis pas de bêtises, à certains écrits de science-fiction qui reprennent cette question du langage et du néologisme.
Bien. C'était en rapport au temps, au futur. Bon. Oui. Parfois, on me pose la question, c'est pourquoi vous ne faites pas des vrais romans ? Et une question qui est très, très agréable en général. À laquelle je réponds, je ne sais pas faire. Alors pourquoi avoir fait de la science-fiction du coup, si ce n'est pas des vrais romans ? Donc il y a évidemment un rapport au temps. Le temps est très important dans la science-fiction, hein, je pense que c'est même un des éléments centraux du genre. Et pourquoi cette projection dans l'espace-temps ? Pourquoi cette projection dans l'espace-temps permet une accélération prodigieuse qui crée un effet vertige, c'est-à-dire que le lecteur se sent tout de suite emporté par quelque chose de différent, et comme dans un toboggan et projeté loin d'un seul coup, ou comme dans une fusée si vous préférez. Donc ce vertige crée aussi un décalage qui engendre un sentiment de merveilleux du coup. On est dans un paysage différent, dans un monde différent, dans un langage différent comme disait Anne, etc. Ce qui permet le merveilleux voyage au sens où l'entendait Jules Verne, un nouveau voyage extraordinaire. C'est un nouveau voyage extraordinaire à lequel est convié le lecteur. Et puis, après, en réfléchissant, je me suis dit, mais finalement, cette projection dans l'espace-temps, cette accélération vertigineuse du temps, permet une réflexion sur le présent. Parce que d'un seul coup, c'est un effet loupe. Et la loupe est très, très importante. D'un seul coup, l'auteur de science-fiction, c'est celui qui capte des choses qui se passent dans le présent, qui le grossit démesurément pour attirer l'attention quelque part. Donc, c'est aussi un espace de réflexion. C'est-à-dire, c'est inviter le lecteur à réfléchir sur notre présent et sur la possibilité d'évolution dans les choix que l'on fait dans le présent. Et puis il y a un troisième élément, et là qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'introduction de l'élément humain dans le genre, qui est du coup de l'ordre de la réflexion philosophique, qui reprend les grandes interrogations mythologiques du passé. Je vais prendre par exemple le mythe de Gilgamesh, hein, qui est une interrogation sur l'immortalité, et est évidemment un mythe qui est repris abondamment dans la science-fiction, parce que les interrogations finalement traversent le temps, ce ne sont pas les évolutions technologiques qui changent les interrogations fondamentales. Elles permettent un déplacement du point de vue, hein, c'est-à-dire nous ne sommes pas le centre de l'univers, l'univers est vaste, etc. Nous sommes dans un coin perdu de l'univers. Mais les interrogations fondamentales de l'être humain, c'est-à-dire ses aspirations fondamentales, elles sont toujours les mêmes. Et voilà ce que permet le genre. Cette association de trois choses, c'est-à-dire le voyage extraordinaire, la réflexion sur le présent et l'interrogation éternelle, finalement, de l'élément humain, ce qui fait toute la richesse et pourquoi je fais pas de vrais romans, mais des romans de science-fiction.
Est-ce que tu crois que notre époque est une époque particulièrement inquiète, puisque, comme disait Anne, un monde dystopique, c'est très alarmiste, quoi. Une énorme partie de la littérature est très alarmiste. Et alors, est-ce que nos temps sont plus inquiétants qu'ils le furent autrefois ?
Disons que je pense que le merveilleux scientifique ou l'espoir d'une amélioration par l'évolution des technologies et des sciences est passé depuis longtemps maintenant. Il y a eu les deux guerres du XXe siècle qui ont montré que la science non seulement n'apportait pas le bonheur, mais pouvait créer de dégâts beaucoup plus importants. Et que donc, effectivement, il y a une sorte de pessimisme ou de vision dystopique de l'avenir qui fait que peut-être aussi les gens se dissocient un peu du genre science-fiction parce que ça rajoute de l'angoisse peut-être à une ambiance déjà anxiogène.
Et en même temps, on est en pleine explosion du post-apocalyptique qui est vraiment la concentration de toutes ces peurs et ce retour à un état plus naturel, plus primitif de survie dans un monde futuriste. Et là, je pense, autant en littérature, à pas mal de romans post-apocalyptiques qui sont sortis ces dernières années, ou à une série qui est au fond une série post-apocalyptique comme Walking Dead, qui est exactement dans cet esprit-là. Donc on est dans cette inquiétude permanente de l'effondrement de la technologie.
Alain, justement.
Et en même temps, on parle de l'immortalité, on parle de Gilgamesh. La grosse différence, c'est que ce qui auparavant appartenait à la religion, la création de la vie, la destruction de la vie, soudainement, via la science et via certains scientifiques, devient quelque chose de l'ordre du réel. Et ça donne d'autant plus d'importance à la science-fiction, quelque part, qui prend du recul par rapport à ça. C'est-à-dire, ce qui appartenait à la religion appartient désormais à la science, au réel ou à des rêves
de certains, certaines personnes se disant réalistes. Il y a un mouvement aujourd'hui des immortalistes. Il y a des gens qui pensent réellement qu'ils vont réussir, en tout cas à gagner 50 ans, voire à terme, pourquoi pas, à être immortels. Ils y rêvent réellement et des scientifiques y travaillent. D'où l'importance de la science-fiction qui, d'une certaine manière, s'empare du mythe et l'actualise, le concrétise, le met en scène comme quelque chose de possible, dangereux ou autre, et qui va, au contraire du prospectiviste, imaginer un tas de possibles utopiques ou dystopiques, et bien souvent les deux à la fois, par rapport à ce rêve, par rapport à ce mythe qui n'est plus religieux mais qui devient athée ou agnostique.
Agin, du coup, sur ta vision du futur quand tu écris
J'allais plutôt enchaîner sur ce qui vient d'être dit à propos de la grande vague actuelle des dystopies, des fresques apocalyptiques et post-apocalyptiques. C'est probablement une des meilleures preuves de l'ancrage de la science-fiction dans le présent. Parce que ça reflète directement l'inquiétude, l'angoisse générale de l'humanité confrontée à des défis planétaires de plus en plus importants.
Alors, je voudrais juste souligner un truc, c'est que la table ronde, elle a été. Il y a un texte qui dit est-ce qu'elle est un guide idéal pour rendre nos lendemains moins inquiétants? Alors, est-ce qu'on va s'en sortir?
C'est vraiment la grande question, n'est-ce pas? Le rôle de la science-fiction a toujours été un peu de, non pas de prédire, mais c'est le what if des Anglais qui dit, au fond, que se passerait-il si? Alors, on peut pousser les situations à l'extrême. Arthur Clarke disait qu'il avait créé 5 fois la fin du monde. Il dit qu'il y en a peut-être une là-dedans qui va être bonne. Donc, c'est de faire cet acte-là. La conséquence, c'est qu'il peut y avoir quand même une vertu pédagogique là-dedans. Je pense qu'une œuvre comme 1984 de Orwell, c'est-à-dire, on ne peut pas lire un roman comme ça et en sortir sans être beaucoup plus vigilant par rapport à l'invasion du Big Brother dans notre vie quotidienne. Ou un film comme Gattaca, on ne peut pas être insensible à l'importance des biotechnologies et à la planification génétique, etc., etc. Donc, les situations apocalyptiques et post sont aussi là pour des mises en garde sur des futurs possibles et à éviter, alors, dans la mesure de nos moyens.
Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit mon voisin. Boum, boum, je rebondis. Boum. Par rapport aux sciences et à la religion, à mon avis, mais ce n'est qu'un avis, bien sûr, la science reprend essentiellement le fonctionnement religieux. C'est-à-dire qu'elle va tenter d'apporter aux hommes une solution venant de l'extérieur. C'est-à-dire, avant, les religions promettaient un paradis, après, post-mortem, si on avait telle vie, c'est-à-dire un dieu extérieur qui nous promettait une vie de délices si jamais on se comportait de telle façon. De la même façon, j'ai l'impression que la science peut apporter des solutions extérieures à l'être humain. Et en tant qu'auteur de science-fiction, ce qui m'intéresse, c'est d'auteur tout court d'ailleurs, de vrais romans, c'est d'explorer les mécanismes profonds, c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, ce n'est pas les solutions, ce sont les mécanismes qui nous conduisent à adopter de fausses solutions qui se reproduisent depuis la nuit des temps. Je veux dire, il y a de la guerre sur notre monde et pourtant on aurait dû évoluer avec la technologie, avec la connaissance dont tu parlais, tout ça, avec les avertissements qui ont été donnés par différents auteurs. Ça commençait par Homère avec la guerre entre Troie et les Grecs, etc. Et nous sommes toujours dans ces énergies de guerre et de conflit, etc. Donc qu'est-ce qu'on a raté ? Quels sont nos mécanismes qui nous conduisent toujours à reproduire les mêmes erreurs? Avant, on utilisait la lance et le couteau pour tuer. Maintenant, ça va être plutôt des bombes, des avions, etc. Mais finalement, le mécanisme est exactement le même. Donc, j'ai l'impression que la science ne résout pas ce problème de mécanisme. Elle ne fait qu'apporter des réponses extérieures qui ne résolvent pas l'essentiel.
Oui, je ne suis pas en désaccord avec cette idée. De fait, l'auteur de science-fiction est toujours dans la question. Il questionne, il interroge sans cesse. C'est le what if. Hein. David Brin, qui est un auteur de science-fiction assez important sur ce registre, insiste beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qui se passerait si toutes les hypothèses sont ouvertes? À l'inverse, les gens de nouvelles technologies ou de sciences cherchent des réponses, surtout dans la logique de la technoscience, hein, plus que dans les sciences fondamentales. Ils cherchent des réponses. Et le paradoxe, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai lu un texte qui parlait donc, d'un des deux fondateurs de Google, Larry Page, qui avait essayé, avec son laboratoire Google X, de construire un ascenseur vers l'espace. C'est un projet de Arthur C. Clarke. Purement et simplement. Et lorsqu'on étudie un petit peu une entreprise comme Google, le système Android qui est sur beaucoup de smartphones, ça vient des réplicants de Blade Runner. Parce que celui qui a créé ça était un fou furieux de Blade Runner. Et d'ailleurs, maintenant, il est à la tête d'une immense entité de robotique chez Google. Ils ont racheté 7 boîtes de robotique il y a quelques mois, hein, fin 2013. Et les noms de code, en fait, pour l'instant, leurs projets sont secrets, sont Réplicant, Rachel, etc. Donc, en fait, ils sont là pour trouver des réponses. Ils n'interrogent pas, au point parfois d'être complètement aveugles dans la manière dont... Hein, c'est vraiment le solutionnisme technologique. Il va avoir réponse à tout avant même que les problèmes ne se posent. Et en même temps, il est totalement influencé par ça. Sauf que la vraie différence, elle est là. C'est qu'eux n'apportent que des solutions, souvent qui se cassent la gueule, alors que l'auteur de science-fiction, lui, interroge.
Je vais passer par la petite histoire. Je suis un peu obligée là. C'est intéressant parce que chez Google, est-ce que vous savez ce qu'on vous demande quand vous postulez, quand vous passez les 6 entretiens, etc. Oui, vous savez ou pas? On vous demande vos bulletins de seconde. Fin de la démonstration.
Mais chez Google, il y a une chose qui est administrative, c'est ça. Ils embauchent, il y a des questionnaires, il y a 10, 12 questionnaires, c'est de la folie furieuse.
Mais ça va plus loin, et là je digresse sans digresser. Enfin, ce que j'aime dans la science-fiction, quand j'en regarde et quand j'en lis quand même un petit peu, c'est justement parce que réfléchir le futur est évidemment le but des scientifiques. En revanche, s'attarder sur le détail est le but du romancier. C'est par le détail qu'on voit vraiment comment les mécanismes, les fameux mécanismes, se mettent en place. Et effectivement, on a absolument rien appris, ou du moins, et là je me place du côté des lecteurs, le lecteur de science-fiction a un peu plus appris sur le futur que les autres. Dans mon ancien établissement, le chef d'établissement a décidé de mettre des cartes à puce pour gérer les entrées dans l'établissement. J'étais la seule lectrice de science-fiction, j'étais la seule à tiquer sur le principe, outre le fait évidemment que ça demandait aux élèves de pointer comme à l'usine, ce qui nous place dans une situation pédagogique très intéressante, sur le fait qu'on était déjà dans un contrôle, et là je le rapproche de Google et de toute cette société de contrôle autour de l'enseignement, autour de l'embauche, autour de la société, de l'entreprise elle-même, c'est-à-dire qu'on a plus le droit à l'erreur, à aucune erreur, et que là, dans ce cas précis, l'enseignement devenait un endroit où on n'avait pas le droit à l'indulgence. Or, c'est un métier où on doit toujours dans l'indulgence et où on doit par moment jouer avec le système pour cacher une erreur d'un élève, un petit manque, etc. Et la vraie différence, c'était ça. La vraie différence, c'était la lectrice, ou du moins lectrice modeste de science-fiction, et les autres qui n'avaient pas justement eu accès à cette projection dans le futur, à cette inquiétude, là, pour le coup, et surtout à cette prévention que la science-fiction peut donner. Donc c'est vraiment par le détail, justement, que l'inquiétude vient, mais aussi qu'elle se résout. Et mais j'ai fini.
Je voudrais rebondir sur ce qui vient de se passer. C'est intéressant, c'est les fondateurs de Google qui ont une sorte d'inspiration réciproque entre la science-fiction et eux. Quoi. Je dirais, à la limite, Google peut inspirer aussi. Les fondateurs de Google sont des gens puissants, qui ont beaucoup d'argent, qui sont certainement en train de façonner les mondes qui viennent. Me vient à l'esprit une question. Est-ce que les politiques, un jour, se laissent influencer par la science-fiction? Lisent-ils la science-fiction? Sont-ils sujets à ça?
Pour avoir travaillé 35 ans auprès d'un gouvernement, je suis québécois, hein, d'origine, d'un gouvernement qui se préoccupait théoriquement de politique scientifique et ayant pendant tous ces 35 ans-là produit aussi des textes de science-fiction, je peux vous dire qu'il y a une assez grande compartimentation entre les deux. Est-ce que le fait d'avoir écrit des textes de science-fiction ont pu inspirer ma pratique de conseiller en politique scientifique? Je crois que oui, malgré tout, parce que une bonne partie de du travail que je faisais consistait à essayer de prévoir des conséquences de certaines du développement de certaines technologies, là, les nanotechnologies, les OGM, en fait tout l'ensemble des biotechnologies aussi. Il y a des aspects extrêmement importants sur le plan social, sur le plan éthique, dont il fallait tenir compte. Il ne s'agissait pas uniquement de développer des industries, on se comprend. Bon. Je ne sais pas si les politiciens eux-mêmes peuvent être des friands de science-fiction, mais il y a entre la science-fiction et le monde peut-être de ceux qui produisent les biens, de ceux qui produisent les réalisations que financent nos politiciens, il y a quand même une assez forte inspiration qui passe. Je donnerai un seul exemple, la robotique, qui est quand même un secteur industriel en pleine expansion dans une foule de domaines, ben, elle est entièrement générée par la science-fiction depuis Karel Capek. Je veux dire, c'est essentiellement la science-fiction qui a créé la robotique, qui a créé non seulement l'élan pour la création de la robotique, mais également l'ensemble de ces préoccupations. Vous savez, il y a une firme coréenne qui est en train de développer des algorithmes basés sur les trois lois d'Asimov pour faire en sorte que les robots ne nuisent pas aux êtres humains. Bon.
Oui, ça, c'est tout à fait juste. Hein, c'est que les trois lois de la robotique d'Asimov sont utilisées systématiquement dans le monde de la recherche en intelligence artificielle et en robotique. Moi, je me souviens d'une discussion avec un roboticien qui s'appelait Paul Bourgine, qui lui pratiquait le principe de plaisir, il essayait d'appliquer le principe de plaisir à ses robots jardiniers, en fait. Et il citait les trois lois de la robotique, hein, comme tous ces roboticiens. De la même façon d'ailleurs que le terme de cyberspace, hein, on le sait, c'est quelque chose qui est très connu en fait, hein, le cyberespace, c'est William Gibson en 1984 qui l'a inventé avant que d'autres personnages, des scientifiques, des gens de technologie s'en emparent. Voilà. Et juste pour rappeler, Karel Capek, c'est 1921, une pièce qui s'appelle Ruhr. Voilà, donc Rorum Universal Robot, qui effectivement invente le terme robot venant de robota, du tchèque robota, qui veut dire travail forcé. En fait.
Ma question était simple après ton intervention sur la robotique. Est-ce qu'on vient à présent de science-fiction? Est-ce qu'il y a certains auteurs qui ont plus ou moins prévu, enfin, tenté de prédire un avenir et qui ne se sont pas forcément plantés?
Ça s'appelle l'exploration spatiale.
On pense.
De fait, l'auteur de science-fiction ne cherche jamais à prédire. C'est ce que disait Pierre à juste titre. Bon, après, quand on est suffisamment parano, suffisamment fou, et qu'on imagine des tas de choses, un peu comme Philippe K. Dick, on tombe sur des tas de réalités qui vont advenir. Hein, le Vitphone, par exemple, dont parle Philippe K. Dick, c'est nos tablettes tactiles. Bon, c'est quasiment ça. Dans Docteur Futur, il imagine une sorte de spray pour guérir des tas de choses, ça existe. Voilà, bon. Mais en même temps, j'ai tendance à dire que c'est presque un hasard et que ce n'est pas ce qui fait la beauté de Philippe K. Dick. C'est-à-dire que ce n'est pas là qu'est le cœur de ce qui perdure. Il invente la réalité virtuelle, d'une certaine manière, à la fois dans les moutons reptiles, donc les androïdes reptiles de moutons électriques. Il invente un système proche de la réalité virtuelle. Et dans Le Dieu venu du Centaure, en 1964, il imagine que des gens, des martiens, des gens sur Mars prennent la drogue, ce qui s'appelle le caprice ou le délice, et puis ils s'allongent et ils vivent ensemble dans l'univers de Poupée Patte, qui est un univers en fait de réalité virtuelle, et lui a fait la conjonction entre ces belles filles qui jouaient à des poupées Barbie, et trouvaient ça absolument terrifiant, il voyait qu'elles étaient la poupée Barbie elle-même, et puis comme il est assez fasciné par les drogues, il met en scène les deux pour imaginer en fait ce qui va devenir la réalité virtuelle. Et il imagine réellement un monde de réalité virtuelle. Mais à la limite, est-ce bien important? Dans des tas de nouvelles de Dick, il imagine, il se met dans le mental de l'autre. Je veux dire, c'est avant toute chose de l'empathie. Et d'imaginer que quelqu'un pourrait être dans le mental de quelqu'un d'autre, donc dans un monde de jeux vidéo. Il n'utilise pas le mot jeu vidéo, mais il anticipe justement parce qu'il se plante. C'est parce qu'il se plante, c'est parce qu'il imagine un tas de folies qu'il anticipe sur le fond, parce que tout se réinvente sans cesse, alors qu'à la lettre, bien évidemment, personne non seulement n'a prédit ce qui va être, Internet très peu l'ont prédit. Certains se disent que John Brunner, en 1977, dans, ou 75, dans Sur l'onde de choc, il a anticipé l'informatique, l'Internet et les logiques de piratage et de hacking. Bon, mais c'est une fois sur je ne sais pas combien, et c'est jamais exactement ça. C'est presque par hasard, et ce qui importe, c'est vraiment le fond, ce qu'il y avait derrière. Et c'est pour ça que ça tombe juste. Plus on est imaginaire, je dirais même plus on est fantasque et fantastique, plus on est capable de prévoir et d'anticiper le pire comme le plus fou, et plus potentiellement on peut à la fois se tromper et ne pas se tromper, parce que l'essence va être là si on a un peu de talent et l'imagination.
Il y a des exemples un petit peu moins sympathiques. Il y a le fait que le roman de H.G. Wells, The World Set Free, en 1913, aurait directement inspiré Leo Szilard dans la conception de la bombe atomique.
N'empêche que ce qui est intéressant ici, c'est la rencontre entre la fiction et la réalité en permanence, quoi, et qu'elles s'inspirent réciproquement, quoi. Mais pour en revenir à cette histoire du politique, l'année dernière, le gouvernement avait invité au Palais de la Découverte toute une série d'auteurs de science-fiction pour discuter autour de ça. Je me posais la question de savoir si ça avait servi à quelque chose. Mais bon, ça, c'est le gouvernement français.
J'ai eu une petite expérience. J'étais invité par Nathalie Kosciusko-Morizet quand elle était ministre de l'écologie sous Sarkozy pour parler d'écologie. Donc une de ses assistantes lui avait suggéré d'inviter des auteurs de science-fiction à parler d'écologie. Donc on m'avait invité, donc j'étais allé, pourquoi pas. Et on a très très bien dîné, on a bu du bon vin, on n'a pas parlé d'écologie. Je lui ai dit, ce qui serait intéressant, c'est de remettre en cause le dogme nucléaire. Et c'est terminé. La discussion s'est arrêtée là.
C'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que toute cette littérature et ses auteurs et toi, vous leur faites un peu peur. Et que là, vous êtes...
Non, mais il y avait des choses qui vraiment, visiblement, outrepassaient les limites permises qui étaient... De remettre en cause ce dogme nucléaire, simplement en parler, d'en parler, c'était impossible. Donc on a continué de manger, de boire, et puis c'est tout, ça s'arrêtait là.
Voilà, j'ai l'un de mes meilleurs amis qui est sénateur vert. Bon. Lui, je sais que c'est un fan de Alan Moore et qu'il lit de la science-fiction. Mais lorsqu'il est à l'estrade, lorsqu'il exerce sa fonction politique, ça n'existe plus parce qu'il parlerait à personne. En France, il parlerait à un mur, en fait. Alors que lui se nourrit complètement de ça. Comme il joue aux jeux vidéo, c'est quelqu'un d'assez ouvert. Bon, je crois qu'il y a une différence de culture aussi assez forte entre les États-Unis et la France, par exemple. Ou même d'ailleurs des pays comme l'Inde, où ils n'ont aucune peur, en fait, les politiques comme les scientifiques, à se dire ouvertement inspirés par la science-fiction. Ce n'est pas un problème. Alors qu'en France, je ne sais pas pourquoi, en fait, bien souvent, des lecteurs ne vont pas faire le pont entre leur activité politique ou scientifique, ou en tout cas... plus rarement qu'en France, qu'aux États-Unis. Et donc, de fait, ce que pourrait apporter cette logique, cette anticipation humaine, cette spéculation à partir de l'humain et toutes ces hypothèses, de fait, aujourd'hui en France, le sentiment que j'ai, c'est que les décideurs, quels qu'ils soient, ne s'en inspirent pas, là où, au contraire, ça inspire plus de gens visiblement, et pas forcément pour le meilleur, aux États-Unis.
C'est intéressant. Est-ce que ça reste... La lecture d'un texte de science-fiction ou de voir un film de science-fiction, est-ce que ça reste totalement du domaine du fantasme, éloigné d'une réalité pratique et je vais rien en faire dans mon existence? Ou est-ce que petit à petit, peut-être, ça va percoler dans notre inconscient collectif et on va avoir envie d'en faire quelque chose, hein?
Déjà, je pense en France, le problème qui se pose, c'est celui de l'ostracisme culturel par rapport à la science-fiction, qui est forcément quelque chose de méprisable. Donc, aucun homme politique digne de ce nom ne pourrait se réclamer d'un genre aussi ouvertement sulfuré, méprisable. Méprisé d'ailleurs par les acteurs de la culture eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas reconnu comme un genre à part entière dans le paysage, littéraire français.
Oui, mais tout de même, les succès universels de films comme Avatar, etc.
Le film, c'est autre chose.
Oui.
Mais je parle bien de littérature, là.
Oui, mais c'est intéressant. On peut parler de vous disiez, Anne, être plus dans les séries ou les films. Quelle différence peut-on faire aujourd'hui par rapport au message de fond entre le texte, le livre et le film ?
Ce n'est
pas une question piège, c'est une réflexion tout d'un coup que je me fais. Ou Pierre.
De fond, entre le
livre. Est-ce qu'il y a, parce qu'apparemment, donc, il y a une différence en termes de diffusion, en termes de reconnaissance publique entre les films et les livres.
Je crois que ça passe beaucoup mieux auprès du grand public. La science-fiction passe mieux auprès du grand public quand elle est cinématographique ou télévisuelle. Bah, déjà, il y a le processus simplement de spectacle, qui est quand même très éloigné du processus de lecture. Il y a aussi une question de génération. Quand on est entre 70 et 80, on a vraiment été nourri à ça. La guerre des étoiles, Albator, son Kokai, donc chose plus ou moins heureuse. Et d'autres films qui sont considérés comme des comédies. Donc ça tient plus au processus lui-même de lecture et au processus qu'on a devant un écran. Devant un écran, ça n'est jamais grave. C'est ça qui est amusant. C'est-à-dire qu'on se nourrit d'images tout le temps, d'images choc, d'images qui nous influencent vraiment, mais ça n'est jamais grave. Et je crois que la perception... Je reprends mon histoire là qui m'obsède avec les cartes, parce que ça m'a vraiment... ça a été un vrai traumatisme avec les cartes à l'école. On n'accorde jamais d'importance à la science-fiction, justement dans le détail, en fait. Ça n'est pas grave. On se ramène la science-fiction à quelque chose de pratique ou de ludique. C'est rigolo d'avoir une carte et de passer. C'est pas rigolo, c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que on demandait tout à l'heure quel auteur avait pu prédire l'avenir. Je me demande plutôt, enfin le présent, je me demande plutôt si le présent c'est quand même pas bien inspiré de certains auteurs. Et aujourd'hui, quand on sait que n'importe quelle journée peut être retracée entre une carte vitale, un téléphone, internet, le badge, effectivement, pour rentrer à l'école, etc., voir le badge, peut-être pour rentrer, je vais être carrément paranoïaque, dans son immeuble. Maintenant, on est déjà là-dedans. On est déjà dans Big Brother, on est déjà dans même dans le meilleur des mondes, dans une certaine mesure. Et c'est plus une question d'inspiration. Mais la science-fiction, moi j'ai beaucoup entendu, pour reboucler sur ce que Pierre disait au début sur les vrais auteurs. Moi j'écris plutôt de la fantaisie urbaine et du fantastique. Je suis pas et en plus de la jeunesse, beaucoup. Donc voilà. Mais moi j'ai souvent entendu sur la science-fiction, de la part de gens pourtant très littéraires, mais qui lisaient de la blanche, ouais mais en science-fiction on peut tout se permettre, ça n'a même pas besoin d'être cohérent. Et c'était aberrant quand on voit à quel point justement la science-fiction est cohérente, et même parfois cohérente à outrance, ce qui moi parfois me bloque un petit peu en tant que lectrice, dans mes goûts. Bien sûr, mais c'est juste hallucinant. Donc, tout ce qui est au cinéma n'est pas grave, hein, n'est pas important. Donc, de toute façon, on ne va pas en tirer une réflexion très, très poussée. Et puis, en plus, la science-fiction au cinéma, c'est une science-fiction d'émotion et de catharsis, beaucoup. Plus que de réflexion, on ne pose pas vraiment de réflexion. Même dans Kataka, on passe par l'émotion. Donc, c'est une autre forme de réflexion et donc de...
Je pense que c'est pas du tout le même engagement entre regarder un film et lire un livre, parce que dans le livre vous allez créer une relation intime à une autre pareille, c'est-à-dire que c'est vous et le texte va susciter votre propre imaginaire, vos propres réflexions. Dans le cinéma, c'est quelqu'un d'autre qui vous impose son imaginaire, donc vous recevez comme ça de façon un peu passive. Ça peut être très plaisant, mais ça n'a rien à voir avec le texte, où c'est vous qui faites le chemin vers le texte. Donc il y a une relation intime qui se crée, qui est tout à fait différente, et qui est beaucoup plus, finalement, lorsqu'on est dans des livres qui posent des questions, beaucoup plus inquiétante.
Je suis juste une parenthèse, il y a un plasticien qui a une réflexion très intéressante là-dessus, qui s'appelle Jean-Michel Frouin, qui a beaucoup travaillé sur la Shoah, et entre autres qui a ramené une locomotive depuis la Pologne jusqu'en France, une locomotive qui a été construite par 12 pays d'Europe, dont la France en 42. Et il avait toute une réflexion sur le mouvement de la locomotive, sur l'idée que quand on rentre dans une locomotive, on est déjà dans un non-voyage, un voyage non-humain, un voyage immobile qui mène, là, en l'occurrence, à la mort. On n'a déjà plus d'identité. Et le mouvement de la première caméra, qui est exactement le même, c'est vraiment la même origine, et le fait qu'à partir du moment où on est devant un écran, on est déjà dans ce voyage non-humain, on est dans ce voyage immobile, donc on va déjà vers la mort, là, une mort intellectuelle, évidemment. Et son travail était très intéressant pour ça. On est très passif devant un écran, évidemment, mais ça n'est pas une passivité anodine.
Deux petites choses. Alors bon, je ne vais pas revenir sur le cinéma. De fait, les gens ont le sentiment que la science-fiction, c'est du divertissement. Et c'est pour ça qu'ils acceptent le cinéma, parce qu'on est dans le divertissement. Et ce qui est refusé le plus souvent, ce n'est pas la science-fiction en tant que telle, au niveau en termes de littérature, c'est qu'elle puisse être quelque chose d'autre que du divertissement. C'est qu'elle puisse faire penser, faire réfléchir, faire avancer. Qu'elle puisse être quelque chose qui va au-delà même, qui peut être du soap-opéra, qui peut être du divertissement, mais qui peut être bien d'autres choses. C'est ça qui est peu accepté. Après, il faut bien... Moi, j'ai une anecdote en tête qui me semble intéressante. Parmi les gens que j'ai rencontrés ou que j'ai interviewés, il y a un personnage qui s'appelle Adam Greenfield, qui n'est pas très connu, qui est un designer numérique, qui est l'un des grands noms de ce qu'on appelle l'Internet des objets. Et ce personnage, en fait, à un moment donné dans ma discussion, il a dit l'un des gros problèmes qu'on va avoir, c'est qu'il va falloir apprendre la politesse aux machines. Il y en aura partout, des puces. Il va falloir leur apprendre, il va falloir qu'on puisse dire non. Je ne veux pas être tracé. Je ne veux pas. Et l'exemple qu'il donnait, c'était une scène de Ubik de Philippe K. Dick, dans laquelle le personnage donc, du roman se retrouve devant une porte. Il est chez lui, dans son connapt. Et puis, comme il faut qu'il paye, elle refuse de lui ouvrir la porte. Et il menace la porte d'un procès. Il y a une sorte de dialogue totalement délirant entre le personnage dont j'ai oublié le nom, c'était...
Joe Chip,
voilà. Hein, entre Joe Chip et puis donc la porte de la maison de Joe Chip. Et en fait, ce que disait, et il avait raison, ce designer, c'est que cet exemple-là, quand il a lu ça, il a dit, ben voilà, c'est ça, en fait. Hein, il faut qu'on puisse faire en sorte, demain, de ne pas avoir de procès à faire à toutes ces machines qui vont quand même bien nous emmerder et qui vont être partout, en fait. Voilà. Et là, je trouvais l'exemple pas mal parce que justement, on voit le rapport entre le gars qui est devenu designer parce qu'il était fou de science-fiction, qui s'est souvenu de cet épisode de Dick et qui, par rapport à la société du tout contrôle, se dit, ben voilà, tiens, là, il y a quelque chose à faire. Donc, sur ce registre, oui, ça peut aider. Hein, ça peut être des marchepieds pour des gens qui, effectivement, savent lire la science-fiction autrement que comme du simple divertissement.
J'ai une question spécialement pour Pierre. Est-ce que finalement l'auteur de science-fiction, pour la plupart des gens, n'est pas une sorte de Cassandre ?
Il y a certainement un peu de ça. C'est en rajoutant de l'anxiété à l'anxiété déjà. Après, c'est aussi aux auteurs de science-fiction de travailler eux-mêmes pour proposer d'autres choses. Moi, je pense que chaque livre est une aventure, une exploration de l'humain. En fait, la science-fiction, c'est aussi c'est principalement et même presque exclusivement une exploration de l'humain dans toutes ses dimensions, qu'on soit dans l'espace le plus lointain, dans un futur proche ou dans le présent, ou dans le passé, dans les uchronies. Tout ça reste de l'exploration de l'humain. Et je pense que l'auteur de science-fiction, sa responsabilité, c'est d'aller chercher d'autres voies. Parce que manifestement, la voie matérialiste, c'est-à-dire la voie du bonheur par l'adjonction de choses ou de croyances, ne fonctionne pas. Donc, il y a une sorte de responsabilité, ou de responsabilité non, mais d'invitation pour l'auteur de science-fiction à aller voir, à explorer autre chose, aller dans d'autres voies et ramener quelque chose de différent au public. Parce que je pense que chaque bouquin, enfin chaque roman que j'écris, c'est une sorte de plongée dans un grand fleuve dont je ne ressors pas indemne de moi-même d'ailleurs. Et je vais au fond un petit peu au hasard et j'essaie de rattraper des choses qui sont dans le fond là et de les ramener à la surface en disant voilà, peut-être qu'on peut aussi réfléchir d'une autre façon, peut-être qu'on peut amorcer une autre vision du monde parce que celle-là manifestement elle est en échec quoi.
D'autant plus que Cassandre n'a pas toujours raison et qu'il y a la possibilité de sortir précisément du mythe de Cassandre où on allait dans le mur, on revisite le mythe de Cassandre, on va peut-être s'en sortir. J'ai plutôt tendance à essayer de voir le monde de cette façon-là, parce que si on est tous là à pleurer sur ce qui va nous arriver, on ne va vraiment pas s'en sortir. Donc il faut mieux écouter Spinoza qui dit que malgré le désespoir, il faut aller vers un ailleurs possible.
Je pense que c'est une question de conditionnement. Nous sommes victimes d'énormément de conditionnements. Et je pense qu'un auteur, c'est celui qui doit se déconditionner pour essayer de proposer de nouvelles voies à ses lecteurs et à l'humanité, en modestement, hein, parce qu'évidemment... ce que vous disiez tout à l'heure sur la lecture des livres de science-fiction, je ne pense pas qu'il y ait une importance considérable finalement, parce que le monde évolue malgré nous finalement, et c'est ça peut-être le grand problème.
Oui, de façon générale, la science-fiction actuelle est très pessimiste. Elle est majoritairement pessimiste, je dirais. Elle continue de soulever beaucoup de questions sur les avenirs possibles et tout. Mais offre-t-elle réellement des possibilités de solutions ? Je n'ai pas vraiment cette impression.
Vous aviez raison tout à l'heure quand vous parliez des questionnements. Au moins, c'est questionner, c'est-à-dire déplacer le point de vue de quelques millimètres pour qu'on puisse voir autre chose. Ça, c'est...
Mais voir autre chose, ce n'est pas nécessairement des voies de solutions. C'est peut-être non, ce qui agace les politiciens, au fond, c'est qu'on n'arrête pas de leur poser les mêmes questions toujours. Sur la dégradation de la planète, sur la crise énergétique, sur tous ces trucs dont ils sont au courant quand même, mais qui ne leur plaît pas parce que c'est pas politiquement très rentable, etc., etc. Mais arrive-t-on avec des solutions?
Je ne sais pas si c'est à l'auteur de science-fiction d'apporter des solutions, mais j'ai en tête deux auteurs qui, d'une certaine manière, ont tissé des utopies, des mondes utopiques qui pourraient être intéressants. Le plus récent d'entre eux, d'ailleurs, qui va intervenir demain, je crois, c'est Ian M. Banks, avec un monde qui s'appelle Culture, qui est une sorte de monde un peu anarchiste, libertaire. Ah, il est mort, d'accord. Oui, c'est vrai, pardon. Moi, j'aime beaucoup Ian Banks et je n'ai pas percuté, effectivement, qu'il était... c'est de la science-fiction ou du fantastique, en quelque sorte. Donc, son fantôme va revenir et donc, ça va devenir un vampire. Donc, Ian M. Banks, Culture est quand même un monde assez incroyable. Et, référence plus ancienne, Ursula Le Guin, qui, effectivement, dans La main gauche de la nuit ou dans des romans tels que ceux-là, a mis en scène des univers autres et des confrontations d'univers qui, effectivement, étaient bien souvent proches d'une certaine logique utopique par rapport à des mondes. Et de manière générale, cette utopie, d'ailleurs, est plutôt anarchisante, alors, elle est plus ou moins technologique, elle l'est assez chez Banks, elle l'est moins, évidemment, chez Ursula Le Guin, mais il y a quand même cette part d'utopie, même si, effectivement, le plus souvent, on est dystopique qu'utopique.
Pour compléter pour Banks, demain, Rumpala va faire une intervention et c'est très intéressant parce que ce qu'il souligne dans Banks et tout ce qu'ils appellent le cycle de la culture chez Banks, c'est que précisément ce qui s'appelle la culture, ce sont des intelligences artificielles extrêmement sophistiquées qui sont une vision enfin plus positive d'un monde plus heureux, d'un monde où les choses peuvent se partager et on n'est pas forcé d'aller dans le mur. C'est là où Banks est absolument fantastique à ce niveau-là.
Je vais me tourner vers le public pour savoir s'il y a quelques questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Levez bien la main. Il y a quelqu'un avec un micro qui va passer.
Merci, bonjour. Moi justement sur tous ces questionnements, je repensais un peu à toute la science-fiction que j'ai pu lire et je me disais que finalement il y a un questionnement qui n'est jamais remis en cause positivement ou presque dans toute la science-fiction, c'est le travail. À chaque fois qu'il y a des univers imaginés où il n'y a pas de travail, c'est des dystopies où derrière le fait que les individus ne travaillent pas, il y a finalement une caste... de robots ou d'aliens ou quelque chose d'esclavagé qui travaille à la place d'eux. Et finalement, ça fait partie un peu, je trouve, des blocages idéologiques de la science-fiction auxquels, quand on se pose la question d'un monde utopique sans travail, il n'y a pas de solution. Donc, soit ça tourne au cauchemar, soit on n'en parle pas. Et je me demande si vous pensez justement que c'est ça un peu la limite de la science-fiction, qu'on peut penser le futur, mais sans vraiment pouvoir remettre en cause des bases de départ qui seraient un peu immuables, des systèmes axiologiques qu'on ne pourrait pas contredire, quoi.
Le travail, en tant que tel, est relativement peu présent, hein, c'est vrai, dans la science-fiction. En revanche, les multinationales, notamment dans le cyberpunk, chez Williams, chez Gibson, chez Sterling, sont très très présentes. Ian M. Banks, la culture d'Ian M. Banks, justement, c'est une civilisation où il n'y a pas de travail. Hein, quasiment pas. On est dans une utopie qui, justement, n'est pas une dystopie par rapport au travail et qui est l'exact inverse de ce que vous dites. Alors, c'est le seul exemple que j'ai en tête qui, au contraire, est une utopie qui s'est débarrassée du travail sans que ça retourne en dystopie. Ceci dit, pour être franc, les histoires de Banks, il y a la culture, mais elles se passent dans d'autres mondes. En fait. Et donc, parce qu'effectivement, si tout va bien, il n'y a pas d'histoire. Hein, si tout est rose, où va-t-on? Et donc, c'est les gens de culture qui se baladent dans d'autres mondes où il y a plein de problèmes, où il y a des civilisations violentes, terribles, gouvernées par le jeu. Et c'est la logique de culture et de ces technologies qui vont effectivement permettre de résoudre des problèmes où justement le travail pose problème potentiellement. Voilà. Hein. Et par ailleurs, quand vous lisez Les mailles du réseau de Bruce Sterling, la notion de travail a presque disparu dans ce qu'ils appellent, eux, la démocratie électronique. Donc, il y a en fait des utopies du travail qui se passent honorablement bien dans pas mal de romans de science-fiction, même si la question du travail n'est pas au centre de la science-fiction. Et souvent, d'ailleurs, elle n'existe même pas. C'est-à-dire que les personnages ne se posent pas cette question le plus souvent. Hein. Elle est mise de côté, en quelque sorte, en tout cas, souvent.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Le travail, on est obligé d'en parler dans des, par exemple, dans des civilisations comme on place sur des planètes inconnues qui sont conquises. Il faut simplement se nourrir, donc avoir du travail agricole déjà, planter, cueillir, etc. Il y a déjà du travail pour vivre, tout simplement, la production est obligée. Donc cette notion-là est aussi présente dans le space opéra, par exemple, où on conquiert des nouveaux mondes. Il faut... avec peut-être une redistribution différente, justement.
Merci. Mais ce débat autour du travail, est-ce que finalement on ne le trouve pas dans certaines œuvres d'Asimov ? Je pense au cycle des robots, où d'un côté on a les premières civilisations, les premières colonisations de planètes où on trouve des êtres humains très rares, complètement libérés de tout travail, puisqu'ils ont d'immenses domaines sur une vingtaine de planètes ou une cinquantaine dans mon souvenir. L'opposition se faisant à partir du départ de ceux qui sont restés sur Terre dans leur caverne d'acier et qui décident de redémarrer dans un esprit où c'est l'humain qui va faire cette activité sans robots, qui sont justement bannis de ce choix de civilisation. Est-ce qu'Asimov ne traite pas cette opposition entre l'humain libéré du travail ou l'humain qui doit travailler pour finalement ne pas s'enfermer dans une espèce d'apathie intellectuelle et sociale?
Je crois que dans le cas que vous citez, qui est celui des cavernes d'acier et face au feu du soleil, Asimov prend plutôt le parti des robots. C'est en fait son idée, c'est que les humains ont tort de se passer des robots sur Terre et que les spatiens ont réussi finalement à survivre grâce aux robots sur leur domaine. Et qu'au fond, la conclusion de ce diptyque, c'est qu'au fond, les robots sont probablement la solution pour ce qui est de la production à long terme. Mais c'est longtemps après.
Je pense que vu l'heure, on peut s'arrêter là. On vous remercie tous d'être venus aussi nombreux, je tiens à le redire. Et on vous souhaite une bonne fin de festival.